Vous êtes sur RTL.
Bonjour Sébastien Rouxel.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Ce matin, l'inquiétude de plusieurs milliers d'étudiants français après l'accord post-Brexit conclu avant-hier.
Erasmus au Royaume-Uni, c'est fini. Le programme d'échange a été jugé trop coûteux par Boris Johnson. S'inscrire dans une université britannique sera désormais plus cher et plus compliqué pour les étudiants européens. Écoutez la déception de Ryan. Il est en deuxième année de licence à Metz et il avait prévu de partir en Angleterre.
C'est un rêve qui date fin collège, début lycée. J'avais déjà commencé à me renseigner pour partir soit l'année prochaine, soit pour mon master. Je me retrouve un peu avec des rêves qui ne seront finalement que des rêves. Je suis très triste et aussi en colère parce que Boris Johnson disait il y a encore quelques temps que le Royaume-Uni resterait dans le programme Erasmus. Ça me met en colère. Erasmus, ça reste quand même un programme incroyable. Si je dois en faire un, j'en ferai un, mais pas au Royaume-Uni. J'ai vu que Boris Johnson voulait lancer un programme mondial sur des échanges universitaires. Bon, j'attends de voir, mais d'ici que je sois en master, le programme, j'imagine, ne verra pas le jour, donc c'est qu'un rêve.
Ryan, joint par Mathieu Bonnour pour RTL.
Et en Angleterre, justement, la reine Elisabeth II a prononcé hier sa traditionnelle allocution de Noël.
Vous n'êtes pas seul, voilà son message, alors que le pays est très durement frappé par la pandémie. La souveraine a voulu insuffler de l'espoir aux Britanniques.
C'est une année qui nous a tenus à l'écart les uns des autres et qui finalement nous a rapprochés. Au Royaume-Uni et dans le monde entier, les gens ont magnifiquement relevé les défis de cette année. Je suis fière et touchée de voir cet esprit indomptable, mais discret. Bien sûr, pour beaucoup, cette période est mêlée à de la tristesse. Certains pleurent des êtres chers et d'autres se languissent de leurs amis ou de leur famille, restés éloignés pour leur sécurité. Alors que tout ce que nous voulons pour Noël, c'est une simple étreinte, une main qui nous rassure. Si c'est ce que vous ressentez, vous n'êtes pas seul et vous êtes dans mes pensées et mes prières.
And let me assure you of my thoughts and prayers.
La reine Elisabeth II, hier soir, propos recueillis par Marie Billon, notre correspondante au Royaume-Uni. Il vient justement d'Angleterre. Le variant du coronavirus réputé plus contagieux touche désormais l'Hexagone. Un premier cas a été détecté à Tours. Il s'agit d'un Français arrivé de Londres il y a une semaine. Asymptomatique, cet homme a été placé à l'isolement chez lui. Cette annonce, alors que la campagne de vaccination débute demain en France et les premières doses viennent tout juste d'arriver dans l'Hexagone, peu avant 7 heures. Un hommage va être organisé lundi en mémoire des trois gendarmes tués cette semaine par un forcené dans le Puy-de-Dôme. Il aura lieu à Amber en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la ministre des Armées Florence Parly.
Des vitres soufflées, des véhicules brûlés et une épaisse fumée noire. Les images de la violente explosion hier à Nashville aux États-Unis.
Explosion d'un camping-car en plein centre-ville. Au moins trois personnes ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital. La police locale parle d'un acte délibéré. Écoutez son porte-parole, Don Aaron.
Une patrouille de police était en route après un appel téléphonique. Puis soudainement, le camping-car a explosé au milieu de la rue à 6h30. Cela venait de l'intérieur du véhicule et nous pensons que c'était un acte intentionnel. Nous ne pouvons pas vraiment vous en dire plus pour l'instant. Je ne sais même pas vraiment ce que nous recherchons, à vrai dire. Mais l'enquête est en cours. Nous ne savons pas s'il y avait quelqu'un à bord du véhicule lorsqu'il a explosé. Cette zone du centre-ville est pleine de caméras. Tout a été filmé et nous allons visionner ces images dans le cadre de l'enquête.
Don Aaron, le porte-parole de la police de Nashville, des propos recueillis par Valentin Boisset.
RTL, 7h34, c'était le plus vieux panda en captivité au monde. Chin Chin est décédé à l'âge de 38 ans et 4 mois, Sébastien.
Oui, c'est l'équivalent de 110 années humaines. Elle vivait au zoo de Chongqing en Chine depuis l'âge de 1 an. Et c'était un véritable symbole, Bénédicte Tassard, de la diplomatie chinoise.
Oui, parce qu'on compte dans le monde 153 descendants de cette femelle panda dans des zoos au Canada, à Taïwan ou encore aux États-Unis. Pas de lien avec nos pandas du zoo de Beauval. Mais Xing Xing avait eu 10 bébés, ce qui est très rare pour un animal qui n'ovule qu'une fois par an au printemps. Son nom signifiait « nouvelle étoile » en mandarin. Xing Xing est née dans la réserve sauvage de la province chinoise du Sichuan et avait été installée à l'âge d'un an dans un zoo. L'été dernier encore, elle fêtait son anniversaire avec un énorme gâteau de pastèques, de pommes et de feuilles de bambou, entouré des enfants de la ville qui lui chantaient un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, on trouve encore 1900 pandas géants dans la nature et 600 en captivité.
Bénédicte Tassard pour RTL.
Bénédicte Tassard qui dit Jin Jin. Alors vous m'avez dit de dire Chin Chin.
Oui, je parle assez mal chinois, désolé.
Moi donc.
Un mot de sport quand même et de football avec le Boxing Day aujourd'hui. Pas de repos pour les clubs anglais. 6 affiches au programme, notamment Leicester, Manchester United à 13h30 ou encore le derby londonien Arsenal-Chelsea à 18h.
Championnat arrêté, JO reporté, les athlètes de haut niveau ont dû s'adapter. L'année sportive a été fortement perturbée par la pandémie. Isabelle Langer vous propose avec les Étoiles du Sport 12 rencontres pour ces fêtes de fin d'année.
12 interviews avec les plus grands champions français. Ils reviennent sur cette année 2020, sur leurs engagements citoyens aussi. Et ce matin, c'est Guillaume Néry, champion d'apnée, qui répond aux questions d'Isabelle Langer.
Bonjour Guillaume Néry.
Bonjour.
Guillaume, cette année 2020 a été un peu spéciale. Comment vous d'abord, personnellement, vous avez vécu cette année de pandémie ?
Ça a été effectivement une année un peu particulière. Alors moi, j'avais pas prévu de participer à des compétitions cette année. Donc sur ce plan-là, ça n'a pas eu trop d'impact. Par contre, c'est vrai que dans le premier confinement, j'ai eu pour la première fois, je pense, de toute ma vie, une privation de l'immersion en mer pendant 2 mois. Et ça a été très, très particulier. Vraiment de ne pas pouvoir, ne serait-ce que goûter, de mettre un pied au contact de l'eau de mer. C'était une expérience spéciale qui m'a fait encore plus apprécier le retour dans l'élément liquide une fois que ce confinement était fini. Mais ça restera, je pense, pour moi le fait marquant de 2020.
Comment vous avez géré cette frustration ?
Déjà, on a tous vécu une forme d'enfermement et de travail sur soi. Donc ça, je pense que ça a pas mal aidé de sentir qu'on était, sentir cette solidarité et de sentir on a traversé cette épreuve ensemble. Ensuite, moi, j'ai contrebalancé ça par pas mal d'autres entraînements que j'ai pu effectuer depuis chez moi, des exercices de yoga, des exercices de préparation physique, en faisant mes petits ateliers de crossfit à la maison. J'ai la chance d'avoir un petit jardin en bas de chez moi, collectif, et donc je me suis occupé pour la première fois de ma vie de ce jardin. Et ça a été intéressant de mettre la main dans la terre, et j'y suis allé avec beaucoup de cœur. Et la récolte a été d'ailleurs assez impressionnante pendant l'été. Après, je suis en train de remarquer là maintenant, c'est que je n'ai jamais douté de ma passion pour la mer, mais cette privation imposée m'a presque fait redécouvrir un nouveau rapport à l'eau, à la mer. Et aujourd'hui, j'y vais tous les jours, mais pas forcément pour aller chercher une performance. J'y vais vraiment pour être dans une communion avec cet élément-là. Et je pense que je n'avais jamais ressenti ce lien avec un degré aussi fort jusqu'à justement cette privation.
Est-ce que la mer a changé avec cette pandémie ? Est-ce qu'elle est plus propre, par exemple ?
Ça serait faire vraiment un raccourci de dire que la mer a été transformée. Ce que j'ai pu remarquer, par contre, d'assez évident, c'est que le fait qu'il n'y ait plus de gros navires de croisière, qu'il n'y ait plus tous ces bateaux qui sillonnent la côte méditerranéenne et notamment la côte d'Azur, où il y a une très grosse pression humaine, ça, j'ai l'intuition, parce qu'encore une fois, tout se vérifie par des études scientifiques. Moi, c'est une intuition que ce silence retrouvé du monde sous-marin a fait beaucoup de bien. Je vois plus de poissons, je vois des comportements différents chez les poissons, qu'ils sont plus calmes, qu'ils sont plus proches de la surface. J'ai l'impression de les voir en plus grand nombre. Et forcément, on fait un lien avec cette diminution de l'impact de l'homme et ce que l'on peut voir. Après, quand à tirer des grandes conclusions à la grande échelle, c'est bien trop prématuré. Et malheureusement, cette paix retrouvée de la mer s'est déroulée sur un temps trop court. Il faudrait peut-être qu'il y ait de plus grands moments comme ça de calme pour qu'on puisse ressentir les effets et la résilience de l'océan et que ses effets soient le plus durables possible.
2021, des projets, des défis ?
Normalement, je vais embarquer sur le bateau d'un ami pour faire la traversée du Pacifique entre Panama et la Polynésie au mois de mars. Ça, c'est une expérience purement personnelle qui est un rêve que je souhaite assouvir. Je compte plonger, retrouver les profondeurs en mai-juin. J'ai pas vraiment d'objectif bien en tête. Disons que j'ai une petite idée sur les 2 ans qui arrivent de progression. Je suis sur l'écriture d'un livre en ce moment. Et puis je vais ouvrir un centre d'apnée à Villefranche-sur-Mer qui sera une véritable école de la reconnexion de l'humain avec l'eau. Reconnexion à soi, reconnexion à son corps, reconnexion au mental au travers de l'apnée.
Merci beaucoup Isabelle Langer, chronique à retrouver sur notre site rtl.fr.
Merci beaucoup à vous Sébastien Rouxel, on vous retrouve à 8h30,
à tout à l'heure.
Dans un instant, Autoradio avec Bourou, Christophe Bourou.
Bonne matinée avec Agnès Bonfillon.
RTL, toujours avec vous.